dans l'imaginaire biblique, la vigne est d'abord synonyme de bonheur et de joie. C'est le symbole du vin et de la fête à venir. Une promesse de bonheur. Et peut-être que sa représentation la plus forte, ou l'image la plus forte dans l'Ancien Testament, c'est l'énorme grappe de raisins que les envoyés en terre promise ont rapporté de la première mission d'exploration envoyée par Moïse. On le lit dans l'Ancien Testament au livre des Nombres. Elle était tellement grosse, cette grappe de raisins, qu'il fallait être deux pour la porter, au moyen d'une perche. Vous imaginez à peu près la hauteur de pratiquement d'un être humain. Les émissaires avaient aussi cueilli des grenades et des figues, et on appela à cet endroit la vallée d'Eshkol, littéralement la grappe, à cause justement de cette grappe que les enfants d'Israël avaient coupée et rapportée. Au bout de 40 jours, dit le texte, qui est effectivement symbolique, ils reviennent de cette mission d'exploration, ils vont trouver Moïse, Aaron et toute la communauté qui est encore dans le désert, ils font leur rapport de mission, ils montrent ses fruits, et disent, nous sommes donc allés dans le pays où tu nous as envoyés, vraiment, il ruisselle de lait et de miel, c'est la terre promise. Le deuxième signe de la vigne, c'est la tradition, c'est la transmission d'un bien et d'un savoir-faire. La vigne, c'est le symbole d'un héritage précieux, d'une tradition à perpétuer et à protéger de génération en génération. Et on a dans l'Ancien Testament, au premier livre des Rois, l'histoire d'un homme nommé Naboth. Naboth possédait une vigne à côté du palais du roi Akab, le roi de Samarie. Et le roi dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, je vais en faire mon potager, je te donnerai à la place une autre vigne ou même de l'argent si tu veux la vendre. » Et Naboth répond, « Que le Seigneur me préserve de céder l'héritage de mes pères. » Troisième signe de la vigne, peut-être celui qui est le plus familier pour nous, c'est tout le travail, l'attention presque amoureuse que ça demande, tout le soin quotidien que cela requiert. On lit ça au début du livre du prophète Isaïe. « Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. » Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il a retourné la terre. Il a retiré les pierres. Il y a mis un plan de qualité. Au milieu, il a bâti une tour de garde. Il a creusé aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins. Ces trois signes, plutôt ces trois histoires, ont ceci en commun, qu'elles tournent mal. Les envoyés de Moïse noircissent ensuite le tableau. Ils disent « Oh là là, mais c'est pas la terre promise, c'est un pays dangereux. Les habitants là-bas nous ont fait l'apparence de géants. On était à côté d'eux comme des sauterelles. » Pire encore, dans l'histoire de Naboth, le roi Akab, sur les conseils de son épouse, la reine Jézabel, le fait assassiner. Assassiner pour s'emparer de la vigne. Et le chant du prophète Isaïe se transforme en terrible lamentation. Une lamentation parce qu'il en attendait de beaux raisins et l'en donna de mauvais. Et il y a ce jugement sévère qui, à la mesure de la déception, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda, il en attendait le droit. Voici le crime, il en attendait la justice, voici les cris. Et c'est ainsi qu'à ces trois signes, vous voyez ces trois signes, de la joie à venir, de la tradition perpétuée de génération en génération, et du soin délicat, constant, permanent, ici, maintenant, autrement dit les trois dimensions du temps, l'avenir, le passé, l'instant présent, il faut ajouter ce qui est au cœur du discours de Jésus, cette purification nécessaire, et même ce qui nous rejoint tous dans notre vie, une dimension de souffrance. Par le passé, on l'a qualifié de souffrance rédemptrice, disons pour le moins purificatrice. Et le Christ Jésus incarne ces différentes dimensions. Quand il dit « Je suis la vraie vigne Ça signifie qu'il est lui-même la promesse de bonheur. Il est l'accomplissement de l'histoire. Et il est l'attention amoureuse du vigneron. Mais il est aussi celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix, qui a souffert la passion, qui nous a aimés jusqu'au bout. Et le jour de Pâques, lorsqu'il rejoint les disciples qui repartent tristes, désespérés, esprit sans intelligence, ne fallait-il pas que le Christ souffrît tout cela pour entrer dans la gloire? Il faut tenir cet ensemble qui forme un tout, dont on ne peut pas séparer une partie qui ne nous conviendrait pas. J'ai connu ici une paroissienne d'une très grande piété, magnifique, qui allait tous les jours à la messe, qui disait tous les jours son chapelet, dont la piété était concrète. Elle s'est accompagnée toute la vie d'une charité admirable à l'égard des pauvres. Ce sont ses propres enfants qui en ont témoigné. Ses propres enfants qui ont quand même ajouté qu'ils ne supportaient pas la place qu'elle donnait dans sa vie à la souffrance. Plus de place, plus de poids, pratiquement plus de prix à la souffrance qu'à la joie. Cette femme qui aurait pu être centenaire, qui était adolescente en 40, et qui avait certainement été traumatisée par la guerre, répétait sans cesse « Ah, vous n'avez pas fait la guerre. Vous n'avez pas fait la guerre. » Elle avait une devise autrement plus belle qui était « Tout pour vous, mon Dieu. » Tout pour vous, mon Dieu, sauf que son Dieu était terrible. Lorsqu'une de ses filles à 20 ans est tombée amoureuse d'un homme divorcé et qu'elle est partie vivre avec lui, elle lui a interdit de revenir à la maison. Elle n'a plus voulu la voir. Et quand, des années plus tard, sa fille s'est séparée, elle n'a pas été là pour la consoler, elle a pratiquement exulté, elle a triomphé, certaine d'avoir eu raison d'avoir bien fait. Cette femme, admirable à certains égards, a quand même dégoûté toute sa famille de la religion. Ils m'ont dit, à force de les culpabiliser, d'autant que, quand elle ne disait rien, elle soupirait. Elle manifestait sa réprobation. Non, elle disait rien. Elle soupirait. Les enfants m'ont dit, ça les exaspérait. Résultat, parmi les descendants, parmi les petits-enfants, arrière-petits-enfants, plus un baptisé. La messe d'enterrement n'a pas été facile. Devant une assemblée qui était fermée, hostile à ce que nous célébrons, l'idée même de sacrifice. Nous l'appelons sacrifice de louange, sacrifice d'amour, mais sacrifice. Assemblée fermée parce qu'il lui manquait l'essentiel. Ces trois dimensions, la miséricorde divine, la bonté indulgente, patiente, la gratitude pour ceux qui nous ont précédés, et la gratitude sans le jugement. Et puis, le quotidien, le soin attentif, constant pour ceux qui nous entourent. Ces trois dimensions qui nous permettent de dire fermement « Dieu est amour !» Le bonheur à venir, la gratitude des biens reçus, l'attention de l'instant présent. Voilà ce qui constitue la plénitude du temps. Voilà ce qui constitue la plénitude de Dieu. Voilà ce qui rejette comme un sarment sec la souffrance hors du temps.